Pouvez-vous nous expliquer pourquoi nous essayons toujours de paraître aussi bien pour les entretiens alors que nous savons que lorsque nous obtiendrons le poste, nous arriverons au travail en ayant l'air un peu moins soigné? Je viens de me faire rejeter pour le poste de mes rêves et je vais dans une grande école de commerce.
Donc, jour après jour, je me connecte à cette application et je vois tellement d'étudiants qui ont du mal à trouver un emploi. Et nous devons parler d'un problème sur le marché du travail en ce moment, car ça devient un peu fou. Un homme de 22 ans vient d'obtenir un diplôme en informatique. Donc, un diplôme en informatique à lui seul est assez puissant. Un bon job en tech, c'est souvent facile à trouver. Il n'arrive pas à trouver de travail, n'a pas d'amis et ses parents comptent sur lui pour les soutenir. Ça ne se présente pas bien. D'accord, si vous regardez ça, vous savez, les parents ont acheté des doctorats, des salaires de misère, ils vont devoir compter sur leur enfant pour gagner un peu d'argent. Et honnêtement, c'est assez honorable. Mais le fait est que le marché du travail est assez mauvais en ce moment. Et il y a beaucoup de très, très mauvaises opportunités d'emploi pour les jeunes diplômés. Beaucoup de jeunes diplômés comme cette personne veulent travailler. Il n'y a tout simplement pas beaucoup d'emplois disponibles. Quand on a 25% des candidats qui cherchent depuis un an, le marché du travail est vraiment mauvais. Le marché du travail va empirer car de grandes entreprises comme Microsoft, Google et Amazon licencient. Cela s'explique en partie par le fait qu'elles estiment que l'on n'a pas besoin de beaucoup d'emplois et que les perspectives économiques sont mauvaises. Certains d'entre eux se disent « Attendez une seconde. La raison pour laquelle je vous vire, c'est parce que les taux d'intérêt sont élevés. Les prêts sont chers. Vous savez, beaucoup de PDG et de directeurs financiers n'ont pas vraiment confiance en l'économie. Et au fait, les licenciements fédéraux, les personnes qui viennent aux États-Unis pour travailler grâce à des programmes de visa, d'autres jeunes diplômés, les licenciements massifs dans le secteur de la technologie. Vous savez, le secteur de la technologie a licencié 150 000 personnes l'année dernière. Cette année, nous sommes en passe de licencier 170 000 personnes. Ce sont des chiffres incroyables. Et ce sont des chiffres que les gens ne veulent pas entendre. Et oui, votre entreprise connaissait tous ses talents pour quelques emplois sur le marché. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de talent. Je veux dire, beaucoup de gens sont très talentueux avec des chevaux bien garnis et étoffés, mais en ce moment, les diplômés de l'université vont être confrontés à l'un des marchés du travail les plus difficiles depuis plus de 10 ans, pour certaines personnes. Comparons cela à 2008. Vous savez, si l'on exclut la pandémie, le taux de chômage des diplômés âgés de 22 à 27 ans est le plus élevé depuis 12 ans. Oui, c'est un peu comme en 2008, d'accord ? Même si les entreprises enregistrent des bénéfices records, l'IA, les taux d'intérêt élevés et le fait que les entreprises ne veulent plus vraiment se développer sont à l'origine de cette crise massive de l'emploi. Les gens ne trouvent tout simplement pas d'emploi malgré le fait qu'ils postulent auprès de 1000, 2000, voire 3000 entreprises. Et oui, j'ai vu ce genre de choses se produire. Regardez quelques-unes de ces vidéos, les gars. Espérons que le marché du travail se redresse bientôt.
Donc, je viens de me faire virer de mon travail. Je suis vraiment énervée à ce sujet, pour être honnête avec vous. Et je ne fais pas cette vidéo pour susciter la sympathie ou pour pleurer devant la caméra devant le monde entier. J'ai déjà assez pleuré aujourd'hui, mais je suis vraiment émue à ce sujet parce que, vous savez, je n'étais pas très heureuse dans mon travail. Vous savez, j'ai l'impression que j'ai en quelque sorte manifesté cela d'une manière étrange, mais je n'ai quand même pas eu de préavis. Pas de temps pour planifier, pas du tout. Je n'ai aucune idée de ce qui va suivre. Oui, c'est beaucoup en ce moment si vous essayez de trouver un emploi sur ce marché du travail. C'est le plus dur depuis des années. Même si l'on compare à l'année dernière, c'est beaucoup plus difficile d'obtenir un entretien. Et malheureusement, beaucoup de ces choses échappent à votre contrôle. Par exemple, vous n'avez aucun contrôle sur le fait que vous êtes en concurrence avec plus de personnes parce qu'il y a eu beaucoup de licenciements, ou que de plus en plus d'entreprises utilisent l'IA dans le cadre du processus de recrutement, ce qui complique les choses. Mais vous avez le contrôle sur votre approche, car votre approche peut être meilleure que celle de 95% des autres personnes qui essaient de postuler à des emplois en ce moment. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est être plus efficace et plus cohérent. Vous pouvez donc faire les choses différemment, comme ne pas simplement postuler sur le site. Les grands sites d'emploi. Trouvez des sites d'emploi spécifiques à votre secteur ou à vos postes. Vous aurez plus de chances d'y être, car il y aura moins de candidats. Autre conseil, ne vous contentez pas d'une seule version de votre chevaux, ni même de deux. Prenez 5 à 10 minutes supplémentaires pour adapter votre chevaux à chaque candidature. Cela fait une énorme différence, et la régularité est essentielle. Ayez un objectif précis chaque jour concernant le nombre de candidatures que vous allez envoyer. Fixez-vous un minuteur, peut-être 50 minutes de candidature, 10 minutes de pause, et faites-le plusieurs fois par jour. Le simple fait d'avoir cet objectif et cette régularité vous permettra de devancer la plupart des autres. Ouais, on est en colère, mec. On mérite mieux. J'ai mon autre camion. On est garé là-bas. On ne travaille plus. On ne travaille plus, mec. Non, je joue juste, les gars. Je dois aller bosser. J'ai des factures à payer. J'ai été licencié de mon travail dans la technologie il y a environ 3 semaines à cause d'une réorganisation, d'une restructuration, ou du moins c'est ce qu'ils disent, et je ne veux pas que ma page en parle. Cependant, pour le fun, J'ai regardé LinkedIn et il y avait ce poste dans une entreprise technologique assez importante qui recrutait juste un chef de produit. Remarquez, je suis chef de produit depuis un certain temps maintenant et je suis dans le secteur depuis environ une décennie. Et chaque entreprise a sa propre structure de travail, ses titres, sa hiérarchie. Chaque entreprise fait les choses un peu différemment. Cependant, ce poste de chef de produit, vous l'avez lu et vous vous êtes dit, ouais, j'ai compris. Et puis tu as plus de 10 ans d'expérience et ça me fait juste rire parce qu'il y avait des gens dans mon entreprise qui venaient de me licencier, des chefs de produits seniors, avec moins de 2 ans d'expérience. C'est juste dingue. J'ai eu l'une des interactions les plus folles hier depuis le décès de Wayan. Et je veux que ce soit un bon rappel pour tout le monde que nous n'avons vraiment aucune idée de ce que vivent les étrangers et que nous devons leur faire preuve de clémence. Donc hier, j'ai conduit 1h30 jusqu'à ma petite ville où vit ma cousine. C'est l'une de mes meilleures amies et nous avons décidé d'aller au jour de la fermeture d'un magasin de disques dans cette ville. C'était un magasin tenu par un couple et sa mère venait de décéder et elle vivait dans un autre état. Ils essayaient donc de tout vendre, ils ont donc dû emporter moins de choses pour qu'ils puissent s'en occuper. Et je suppose que c'était son dernier parent. Il était donc vraiment triste, et on pouvait clairement voir qu'il était en deuil parce que chaque fois qu'il est entré pour la première fois, il a dit « Si vous avez besoin d'aide pour trouver quelque chose, je ne vous aide pas. » Et honnêtement, si je n'avais jamais vécu de deuil, ça m'aurait fait reculer et je serais littéralement partie. Mais je comprends le deuil, mais il n'avait aucune idée que j'étais moi-même en deuil. Et plus tard, quand mon cousin qui adore la musique a regardé tous les DVD, il est venu me voir et m'a dit « Je parie que tu ne gardes rien, que tu n'achètes pas les vrais trucs. Tu utilises le numérique et elle achète les vrais trucs. » Et je me suis dit « Ouais, je n'aime pas le désordre. J'aime mes services de streaming. » Et il m'a demandé quel âge j'avais et j'ai dit « Laisse-moi deviner. Soit tu es à l'université, soit tu travailles. » Et j'ai dit « En fait, je ne fais ni l'un ni l'autre. » Et à ce moment-là, il a émis un jugement très partagé sur le fait que j'étais une merde paresseuse. Et puis on pouvait le voir et il m'a dit « Oh, tu fais partie de ces gens-là. » Et je me suis dit « Non, non, non. J'ai déjà terminé mes études et je suis mère au foyer, mais mon fils est décédé. » Parce que, honnêtement, on ne sait jamais. Et j'avais juste besoin de savoir qu'on n'a pas le droit de supposer que je suis une personne paresseuse. Je ne sais pas, c'est ce qui m'a fait réagir. Et la façon dont le comportement de cet homme a changé parce qu'il s'est dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ?» Il a dit « Personne ne m'a demandé ce qui était arrivé à ma mère. » Comme s'il jugeait tous. Et donc on a fini par discuter un peu. Il a des enfants de mon âge, donc il a la cinquantaine. Mais je pense que ça nous a appris à tous les deux qu'on n'a vraiment aucune idée de ce que quelqu'un traverse et que ce n'est pas parce que quelqu'un dit qu'il n'est pas à l'université et qu'il n'a pas de travail qu'il est paresseux. C'est comme si on n'avait vraiment aucune idée de ce qui se passe dans la vie de quelqu'un. Alors, soyez gentils avec les inconnus. Soyez gentils. Donc, on dit que 9000 personnes supplémentaires ont été licenciées de Microsoft. Cela fait 15 000 en 60 jours. Que se passe-t-il? C'est une entreprise qui pèse 3 milliards de dollars et qui réalise des bénéfices records chaque trimestre. Et qui paye vraiment beaucoup d'argent à ses cadres supérieurs. On pourrait utiliser une partie de cet argent pour garder quelques employés. Je comprends qu'il faille se débarrasser des employés peu performants, mais les licenciements sont historiquement très performants, pour être honnête avec vous. Les personnes qui sont là depuis un certain temps et qui font beaucoup de travail pour l'entreprise. Je sais personnellement que les équipes avec lesquelles j'ai travaillé et dont je faisais partie ont vraiment eu du mal depuis le licenciement de 6000 personnes et que cela ne fera qu'empirer avec ce licenciement. J'espère donc que Microsoft trouvera une solution et corrigera le tir, mais je pense que vous allez voir cela de plus en plus souvent à l'avenir. D'accord. Pouvons-nous juste parler de la difficulté de trouver un emploi en ce moment? J'ai été licenciée il y a environ un mois, mais j'ai postulé, mais j'ai l'impression que je n'obtiens même pas de réponse, du genre oui ou non, ou quoi que ce soit du genre. Et j'aimerais qu'il y ait un moyen plus simple de faire ces candidatures massives au lieu de simplement le faire via LinkedIn ou Indeed, car j'ai l'impression qu'il y a des centaines et des centaines de candidats et que vous n'aurez probablement pas de nouvelles des entreprises pour lesquelles vous postulez. Mais oui, c'est dur ici. J'ai vraiment l'impression que c'est difficile. Je ne retrouverai plus jamais de travail. J'ai tellement peur parce que je suis au chômage depuis 3 mois. Je n'ai pas droit au chômage parce que je viens d'emménager ici. Je suis tellement stressée. Ça ne m'est jamais arrivé avant. J'ai toujours eu un travail. J'étais une élève brillante, troisième de ma classe, j'ai eu beaucoup de succès au lycée et à l'université, et j'ai une licence en poly-IA. J'ai 2 ans d'expérience en santé mentale. Je suis une excellente travailleuse. Je suis très organisée, mais personne ne veut me donner d'entretien. Et j'étais littéralement en train de pleurer au téléphone avec ma mère parce que je me disais, et si je ne trouvais pas de travail? Je postule depuis des mois. Je ne trouve rien. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais vivre chez mes parents pour le reste de ma vie? Parce que je ne plaisante pas. Je ne peux littéralement pas obtenir d'entretien nulle part. Nulle part. Et j'ai postulé à des centaines, voire des milliers d'emplois ces derniers mois. Je ne sais vraiment pas quoi faire. J'ai vraiment très peur. J'ai vraiment peur. Je ne sais pas ce qui se passe dans le monde en ce moment. Mais je suis une bonne candidate. Je ne sais pas ce qui se passe.
Être au chômage est tellement dur parce que j'en suis à un stade où j'ai hâte d'arriver au jour où je n'aurai plus à penser à ma situation. Comme ces jours où tu peux te dire, oh, il est 5h30. Je peux aller à l'happy hour et manger un peu de sushi. Ou, oh, c'est samedi matin, je peux faire du shopping, je peux faire toutes ces choses amusantes. J'ai juste hâte d'arriver au moment où je n'aurai plus à penser au travail. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est comme si je me disais, oh, je vais bien. Ce n'est pas quelque chose qui me pèse. Ce n'est pas quelque chose qui me trotte constamment dans la tête. C'est juste une question de fait, ouais, lundi je vais bosser. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est dur, honnêtement, de gérer le fait que j'en suis toujours là, parce que ça fait des mois et je ne sais pas. J'ai vraiment hâte d'en être sorti, parce que c'est vraiment ce qui m'a permis de m'en sortir. Bref, passez une bonne journée. Il fait beau. Trouvez-vous un boulot, crie-t-il. Et même si j'ai de multiples problèmes de dos, dont une spondylarthrite ankylosante de grade 2, une discopathie dégénérative, une sténose spinale et une scoliose légère, et que je n'ai pas travaillé dans la vente au détail depuis 2009, j'ai postulé à des emplois dans la vente au détail parce que je n'arrive pas à trouver de travail d'écriture, et personne d'autre non plus en ce moment. C'est la folie. Et même si ça fait longtemps, je sais comment faire du travail dans la vente au détail. J'ai travaillé chez Macy's, j'ai travaillé chez Dillard, j'ai travaillé dans plusieurs endroits, et je pensais qu'ils embauchaient toujours en octobre parce qu'ils avaient besoin de personnel en urgence jusqu'à la fin de l'année et jusqu'en janvier, avec tous les retours et tout, quelqu'un m'embauchera sûrement. Postuler, postuler, postuler. J'ai finalement eu un coup de fil de Home Goods, qui est une entreprise appartenant à TJ Maxx. C'est une entreprise cool. Ils vendent des trucs cool. Ils vendent à des gens comme moi qui aiment la décoration intérieure, les couvertures, le confort et ce genre de choses. Très bien. Donc, le gars m'appelle, me pose quelques questions sur mon parcours, veut organiser un entretien pour que je vienne. Cool. Et je lui dis quand je suis disponible, puis je lui explique que je ne suis disponible que pour travailler 1 semaine sur 2. J'ai la garde de mon enfant 1 semaine sur 2, mais je suis entièrement disponible la 1 semaine sur 2. Et il me dit, oh, je pense qu'on peut s'arranger. Alors, il m'a fixé un entretien, puis il a appelé pour changer l'heure, puis il a appelé 1 deuxième fois pour changer l'heure, ce que j'ai compris. Le commerce de détail, c'est dingue, j'y ai déjà travaillé, je sais, j'étais flexible, et mon entretien était aujourd'hui à 14h. Je me suis donc habillé, j'ai mis un vrai soutien-gorge, de beaux vêtements, je me suis maquillé, je me suis coiffé, j'ai fait des recherches sur l'entreprise, j'ai trouvé des idées et des choses spécifiques dont je parlerai pendant l'entretien. Et j'ai aussi rafraîchi ma mémoire sur des choses que j'avais faites dans mes précédents emplois dans le commerce de détail. J'étais donc préparé. Je suis arrivé tôt, 10 minutes avant le début prévu de mon entretien. Je suis entré et, comme l'a suggéré le monsieur qui avait organisé l'entretien, je me suis approché de la première vendeuse que j'ai vue et je lui ai dit, « Je suis là pour un entretien. Où dois-je aller ?» Et elle a répondu, « Oh, bien. Parce qu'on a vraiment besoin de vous, car ils sont super occupés et surchargés de travail comme tout le monde dans le commerce de détail en ce moment, n'est-ce pas ?» Elle est donc allée chercher la responsable de service qui lui a demandé, « Qui êtes-vous déjà ?» Et je lui ai dit mon nom. Elle me dit, « D'accord, tu peux aller au fond, près du panneau des toilettes, j'y reviens dans 1 seconde. » Elle ne se présente pas, rien. Elle revient donc, me raccompagne dans la salle d'entretien, ne se présente toujours pas, me demande de confirmer mon nom pour qu'elle puisse le cocher sur le calendrier, puis dit à une collègue qu'elle va passer un petit moment en entretien. Elle veut revenir un peu sur mon parcours et sur les raisons pour lesquelles je cherche du travail. Je lui explique que je suis écrivain. C'est le genre de choses que j'écris. En ce moment, le travail est vraiment lent. Je cherche à compléter mes revenus et j'ai beaucoup d'expérience dans le commerce de détail, et j'ai pensé que ce serait un bon endroit pour travailler et gagner un peu d'argent. Elle m'a demandé de lui décrire mon expérience. J'ai donc tout passé en revue. Je veux dire, j'ai vendu beaucoup de choses différentes chez Macy's. J'ai travaillé sur tout le 2e étage. J'ai donc tout vendu. Et j'ai aussi travaillé chez Dillard et j'ai travaillé dans un autre magasin qui s'appelle Ups and Downs et j'ai travaillé dans une boutique et j'ai décrit tout ça. Et puis elle m'a dit, bon, quand es-tu disponible? Et j'ai dit, eh bien, c'est ça le truc. Comme je l'ai dit au gars qui a organisé l'entretien, je ne peux travailler qu'une semaine sur deux. Oh. Elle a dit, et je me suis dit, c'est parti. Et elle regarde l'ordinateur et elle dit, je ne vois pas comment ça va marcher pour nous. Et je me suis dit, d'accord, eh bien, j'ai dit au gars au téléphone que c'était ma disponibilité parce que je ne voulais pas perdre ton temps ou le mien si ça ne marche pas. Et elle m'a dit, ouais, je ne sais même pas comment je pourrais entrer ça dans l'ordinateur. Je veux dire, je devrais alors remplir les autres créneaux horaires les semaines où tu ne peux pas travailler avec d'autres personnes. N'est-ce pas ça la planification dans le commerce de détail? Tu remplis les créneaux horaires vides avec des personnes qui sont disponibles. Évidemment, d'après la dame à qui j'ai parlé quand je suis arrivé, ils ont besoin de quelqu'un pour les aider. Ne préférerais-tu pas avoir de l'aide de temps en temps plutôt que pas d'aide du tout parce que vous attendez le candidat idéal, qui n'a rien d'autre à faire que d'être disponible pour travailler quand vous le souhaitez, de l'ouverture à la fermeture, n'importe quel jour de l'année? Je veux dire, ne préféreriez-vous pas alléger un peu le fardeau et chercher d'autres personnes qui pourraient également alléger ce fardeau et donner à un groupe de personnes des jours de congé et faire tourner les gens pour qu'ils ne soient pas surmenés et épuisés? Être au chômage, c'est nul parce qu'il y a tellement d'incertitudes avec tout ça et j'essaie de ne pas pleurer tous les jours à ce sujet. Mais le bon côté des choses, c'est que je pourrais aller me promener vers 13h de l'après-midi et n'avoir de compte à rendre à personne.